Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, mardi 2 avril 2017, nous allons vous présenter des programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie. Vous pouvez également écouter magazine culturel, apprendre l'indonésien et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.vonews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Salutations, bonsoir. Bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président de la République d'Indonésie a déclaré que les trois zones économiques spéciales de la région orientale étaient favorables au développement équitable. Le secteur énergétique national doit participer à la réduction du taux d'émission. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche invite le monde à gérer la gouvernance durable des récifs coralliens. Le gouvernement indonésien doit anticiper la baisse des importations de charbon à l'avenir. Le maire de Surabaya a présenté le succès de l'éducation au Forum mondial sur l'éducation. Et enfin, les produits halal et des vêtements pour les musulmans indonésiens sont potentiellement commercialisés au Dagestan. Voici le journal complet. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a déclaré que le fonctionnement de trois zones économiques spéciales dans la région d'Indonésie orientale visait un développement équitable. Antara a rapporté que cela avait été rapporté par le président Joko Widodo lors de l'inauguration de l'opération de la zone économique spéciale de Bitung, la région économique spéciale de Maloy, la zone économique spéciale de Mahotai, à l'aéroport Samratulangi à Manado dans le nord de Sulawesi, lundi. Le président a déclaré que le développement des zones économiques spéciales était spécifiquement destiné à attirer les investissements en Indonésie. Le développement des zones économiques spéciales accroîtra également la compétitivité des produits indonésiens. Le secteur national de l'énergie doit pleinement soutenir la réduction du taux d'émission de gaz à effet de serre afin de pouvoir contribuer à la réalisation de l'accord de Paris qui a été signé en 2016. Comme l'a cité Antara, le directeur de l'Institut pour la réforme des services essentiels, lundi, Fabi Tumewa, a rappelé lors de la promulgation de l'accord de Paris, le monde entier devait pouvoir limiter la hausse des températures mondiales en dessous de 2 degrés Celsius et vers zéro émission nette avant le milieu du 21e siècle. Fabi a déclaré que l'Indonésie était également l'un des pays soutenant l'accord de Paris et l'a ratifié par la loi numéro 16/2016. Il a souligné qu'avec cette ratification, l'Indonésie devait participer aux efforts mondiaux visant à réduire le taux d'émission de gaz à effet de serre, en particulier du secteur de l'énergie. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche invite le monde à participer à la gestion durable des récifs coralliens en adoptant une résolution liée à cette question adoptée par les Nations Unies. Suseno Sukoyono, personnel expert du ministère des Affaires communautaires et des relations interinstitutions du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, dans un communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta lundi, a indiqué que la résolution relative à la gestion durable des récifs coralliens avait été appliquée par l'Indonésie et Monaco, et soutenue par le Mexique, les Philippines et la Corée du Sud. Suseno Sukoyono a déclaré que la résolution invitait la communauté internationale à coopérer pour mener des actions concrètes dans la conservation et de la gestion des récifs coralliens de manière durable, y compris le potentiel des effets négatifs du commerce de poissons de récifs vivants par la consommation. Le gouvernement indonésien doit anticiper la possibilité d'une baisse des importations mondiales de charbon car on estime que de plus en plus de pays au monde n'utiliseront plus le charbon comme source de production d'électricité. Selon Antara, le directeur de l'Institut pour la réforme des services essentiels, Fabi Tumewa, à Jakarta, lundi, a déclaré que la baisse de la production et de la demande et les fluctuations des prix du charbon étaient causées par la tendance à la transition énergétique mondiale et au développement des centrales électriques distribuées dans le pays à long terme pour affecter les revenus des États et des régions ainsi que l'absorption de main-d'œuvre dans les centres de production de charbon. Fabi a rappelé que même si le secteur du charbon ne représente en moyenne que 4 à 6% du produit intérieur brut national, il existe 4 provinces, à savoir Kalimantan Oriental, Kalimantan Central, Kalimantan Méridional et Sumatra Méridional. La contribution du charbon atteindra seulement 19 à 35% du produit intérieur brut. Le maire de Surabaya, Tri Risma Hari ini, est devenu le représentant indonésien en tant que conférencière lors du 10e Forum international de l'éducation de Saint-Pétersbourg en Russie. Tri Risma Hari ini, dans un communiqué de presse Arpika Online, a déclaré lundi que le Forum international qui s'est tenu du 25 au 29 mars visait à discuter divers problèmes liés à l'éducation dans différentes parties du monde. Plus de 20 000 citoyens russes et des dizaines de pays dans le monde ont pris part au forum. Dans sa présentation, elle expliquait, entre autres, la municipalité de Surabaya avait fait des programmes d'enseignement gratuits allant des écoles maternelles aux écoles secondaires et aux écoles professionnelles afin de permettre à tous les enfants de suivre un enseignement décent. Elle donne également l'opportunité aux enfants ayant un très faible intérêt à l'école de s'inscrire dans des écoles gratuites situées près de chez eux. En outre, la municipalité de la ville leur a également fourni gratuitement des uniformes, des sacs de chaussures et d'autres matériels scolaires nécessaires. Wahid Supriyadi, ambassadeur d'Indonésie auprès de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, a déclaré que les produits alimentaires halal, le café et les vêtements des musulmans indonésiens étaient très susceptibles d'être commercialisés au Dagestan, l'un des États de la Fédération de Russie. Le chef de la fonction d'information et socio-culturelle de l'ambassade indonésienne à Moscou, Adi Gunawijaya, a déclaré à Antara lundi que lors d'une visite de travail au Dagestan, l'ambassadeur Wahid Supriyadi avoue que les produits indonésiens étaient très demandés au Dagestan. À travers le Dagestan, ces produits peuvent entrer dans d'autres régions du Caucase russe telles que la Tchétchénie et même dans les pays voisins comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. La phase initiale débutera par la participation de 11 hommes d'affaires indonésiens au sommet de Kazan en République du Tatarstan du 24 au 26 avril. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Voice of
Indonesia. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Commémoration de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Depuis 2008, tous les 2 avril, le monde commémore la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Cette année, le thème est « Technologie d'assistance et participation active ». Dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation de l'autisme, les Nations Unies ont insisté à la communauté internationale à assurer la participation des personnes avec l'autisme pour réaliser des objectifs de développement durable. Dans son site web, les Nations Unies disent « Pour beaucoup de gens dans le spectre de l'autisme, l'accès à une technologie d'assistance abordable est une condition préalable pour pouvoir utiliser leurs droits humains et participer pleinement à la société. Ainsi, ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. La technologie peut réduire ou éliminer les obstacles à la participation sur la base de l'égalité avec les autres. La Convention relative aux droits des personnes handicapées demande aux pays participants à la Convention de promouvoir la disponibilité et l'utilisation de technologies d'assistance à des coûts abordables. Il doit également faciliter l'accès à la technologie d'assistance en encourageant la recherche et le développement de cette technologie. Bien que la technologie continue de croître, il existe encore des obstacles majeurs à l'utilisation des technologies d'assistance, y compris les coûts élevés, le manque de disponibilité, le manque de prise de conscience du potentiel et une formation insuffisante à son utilisation. Selon les données de l'ONU, dans certains pays en développement, plus de 50% de personnes handicapées ayant besoin d'aide ne l'obtiennent pas. En Indonésie, en 2015, selon le quotidien Kompas, il y avait environ 12 800 enfants autistes et 134 000 adultes autistes. Malheureusement, en Indonésie, il n'existe pas encore des données précises sur l'augmentation du nombre d'enfants atteints autistes chaque année. En général, le traitement de l'autisme en Indonésie est le même que dans d'autres pays. Actuellement, beaucoup d'informations sur le traitement de l'autisme, telles que l'ouverture de divers centres de traitement et la formation de diverses fondations qui s'occupent de la gestion des enfants autistes, y compris divers séminaires sur l'autisme. La manipulation qui était autrefois considérée comme impossible, enfin peut être appliquée aux enfants qui ont des symptômes de l'autisme à un âge précoce, mais pas tous sont capables de le mettre en œuvre avec la bonne méthode. C'est là que l'importance de l'initiative et le rôle du gouvernement dans la réglementation des services liés à l'autisme sous la forme d'installations physiques et de lois. Ainsi, toutes les personnes avec l'autisme obtiennent les bons gestionnaires pour que l'Indonésie puisse enfin tenir ses engagements concernant les objectifs de développement durable relatifs aux personnes handicapées, à savoir ne laisser personne derrière. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 avril 1967 est la Journée internationale du livre pour enfants. La Journée internationale du livre pour enfants est fixée en 1967 par l'Organisation internationale à but non lucratif en Suisse. Le 2 avril est le jour de l'anniversaire de Hans Christian Andersen et célébré la Journée internationale du livre pour enfants qui a pour but d'inciter à l'amour de la lecture et d'attirer l'attention sur le livre pour les enfants. La Journée internationale du livre pour les enfants est célébrée avec diverses activités telles que concours d'écriture et la remise des prix. Le 2 avril 1982, les troupes argentines occupent les îles Malouines. Le 2 avril 1982, les troupes argentines occupent l'île de Falkland, plus connue sous le nom de l'île de Malouines, dans la région sud-est du pays. Les îles de Malouines ont été découvertes en 1832 par les Britanniques et devenues l'une des colonies britanniques. L'Argentine affirme toujours que les Malouines font partie du territoire du pays. Pour cette raison, l'Argentine envahit l'île de Malvinas ou les îles de Malouines en 1982. Cette action de l'Argentine n'a pas été acceptée par la Grande-Bretagne. L'armée royale britannique a ensuite été envoyée dans la région et il y a eu une bataille entre eux. La sophistication de l'armée britannique a finalement conduit l'armée du pays à la victoire et a chassé l'armée argentine des Malouines. Bien que l'Argentine ait perdu militairement, les Buenos Aires ont pris encore des mesures diplomatiques pour devenir propriétaires de l'île. Le 2 avril, la Journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. La Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est établie par les Nations Unies depuis 2007. Il est un moment pour sensibiliser et engager la communauté mondiale à soutenir les personnes atteintes d'autisme et à lutter contre la discrimination. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a lieu chaque année depuis le 9 septembre 1989. Sa détermination est basée sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU numéro 62-139 et la journée mondiale de l'autisme qui est fixée le 18 décembre 2007 est basée sur la proposition des représentants de l'État du Qatar et soutenue par tous les États membres. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Thank you.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Un rêve chanté par The Groove. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Mon Indonésie.
Chers amis, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, l'importance de maintenir la posture de l'architecture régionale dans la région. Les États-Unis sont un partenaire stratégique qui soutient toujours l'unité et la centralité de l'ASEAN. Il est très important de maintenir la posture architecturale régionale dans la région, y compris dans le processus de développement du concept Indo-Pacifique de l'ASEAN qui est ouvert, transparent et inclusif pour un progrès mutuel. C'est ce qu'a déclaré José Tavares, directeur général de la coopération de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères lors de la 32e réunion du dialogue entre l'ASEAN et les États-Unis tenue à Washington DC aux États-Unis les 27 et 28 mars 2019. Comme indiqué kemlu.go.id, José Tavares a expliqué que la position des États-Unis devait être appréciée par l'Indonésie et suivie d'une coopération concrète lorsque le concept Indo-Pacifique de l'ASEAN serait concrétisé en 2019. À cet égard, Patrick Murphy, président de la délégation américaine, a accueilli avec satisfaction de la déclaration de l'Indonésie et a déclaré qu'il continuerait de jouer un rôle actif dans divers mécanismes de l'ASEAN, comme sommet de l'Asie de l'Est et le forum régional de l'ASEAN, et soutiendrait pleinement le concept Indo-Pacifique de l'ASEAN qui est ouvert, transparent et inclusif avec l'ASEAN comme centre. Il a dit que les États-Unis avaient également apprécié la tenue du dialogue de haut niveau sur la coopération Indo-Pacifique à Jakarta le 29 mars 2019. Selon Patrick, le dialogue de haut niveau a permis de confirmer de nombreuses similitudes dans les principes et les éléments du concept Indo-Pacifique promu par les États-Unis et l'ASEAN. Par ailleurs, José Tavares a également déclaré que les questions de terrorisme et d'actes de violence extrême étaient également l'un des points forts de la réunion. Selon lui, il existe encore des menaces de terrorisme et de violence extrême. Les récentes actions humanitaires tragiques menées à Christchurch en Nouvelle-Zélande et à Utrecht aux Pays-Bas ainsi qu'à l'intérieur de l'Indonésie montrent que dans diverses communautés, il reste encore des embryons d'extrémisme à éviter. Pour surmonter ce problème, toutes les parties concernées doivent renforcer la coopération internationale. À cet égard, la réunion a décidé de renforcer la collaboration dans le domaine du renforcement des capacités et du partage d'informations sur le renseignement des forces de sécurité. En outre, l'Indonésie a également souligné le rôle stratégique des jeunes en tant qu'ambassadeurs de la paix qui diffusent les valeurs de paix et de non-violence. Le 32e dialogue de l'ASEAN et des États-Unis est la réunion officielle annuelle de haut niveau entre l'ASEAN et les États-Unis. Les États-Unis et le Laos ont présidé la réunion en tant que coordonnateur national de la coopération ASEAN-États-Unis. Les délégués de paix de l'ASEAN et des États-Unis ainsi que le secrétariat de l'ASEAN y ont assisté. À la réunion, ils ont discuté de diverses questions d'intérêt commun concernant diverses questions régionales et internationales ainsi que l'évolution et l'orientation future de la coopération entre l'ASEAN et les États-Unis, y compris dans les domaines maritimes, de la cybersécurité, du terrorisme, du commerce et des investissements, de la prévention des catastrophes naturelles, de l'éducation, de la jeunesse et des femmes. La coopération entre l'ASEAN et les États-Unis a débuté en 1972. Les États-Unis sont officiellement devenus un partenaire du discours de l'ASEAN en 1977 et se situent actuellement au niveau du partenariat stratégique depuis 2015. Serge, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée Toujours amoureux, chantée par groupe de musique Kotak. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, voici le magazine culturel introduisant le temple Sambisari. Si vous visitez la province Yogyakarta, vous pourrez visiter diverses destinations touristiques intéressantes, notamment le tourisme historique. Il y a beaucoup de temples que vous pouvez visiter. L'un d'entre eux est le temple Sambisari. Ce temple est très unique car il est situé au moins de 5 à 6 mètres sous la surface environnante. Le temple Sambisari est situé dans le hameau Sambisari, le village Purwomartani, le district Kalasan, à Sleman. L'emplacement n'est pas loin de la ville de Yogyakarta, avec une distance d'environ 12 km et une durée de trajet d'environ une demi-heure. Le prix du billet d'entrée au temple est 5000 rupiah. Le temple Sambisari est un temple hindou de style Shiva qui aurait été construit au début du 9e siècle par Rakai Garung, roi hindou Mataram de dynastie Shailendra. Le temple Sambisari a été découvert par hasard par un agriculteur qui bêchait dans son champ de riz. D'après les résultats de l'étude, il a été déterminé en 1966 que le mont Merapi renfermait les ruines d'un temple enseveli par des piles de sable et de pierres jetées en 1906. La reconstruction et la restauration de ce temple ont été achevées en 1987. À l'heure actuelle, le terrain autour du temple a été fouillé et aménagé pour former un carré avec des escaliers sur les quatre côtés. Pour visiter le temple Sambisari, vous devez passer par des dizaines d'étapes bien ordonnées vers le bâtiment du complexe du temple, car le temple est situé sous la surface du sol. Le temple Sambisari comprend un temple principal et trois temples annexes. L'état du temple principal, faisant face à l'ouest, est relativement intact, tandis que les trois temples qui se trouvent en face du temple principal aujourd'hui ne sont que les restants. La hauteur du temple principal culmine à 7,5 mètres. Ici, vous pouvez capturer la beauté du temple Sambisari d'en haut afin que toute la construction du temple soit clairement visible. Vous pouvez également naviguer jusqu'au bas et voir les détails de la construction du temple Sambisari. Le meilleur moment pour venir ici est le matin ou le soir. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia. Thank you.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson chantée par Enda N. Reza intitulée Espace Euro. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour l'orbite suivante, vous allez écouter Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se trouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Memperkenalkan orang lain ». En français, présenter l'autre personne. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Memperkenalkan orang lain ou en français, présenter l'autre personne. Tony est dans la région du temple Prambanan avec un guide touristique. Soudain, il rencontre un ami de Tony. Tony a présenté le guide à son ami.
Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir memperkenalkan orang lain. Memperkenalkan orang lain ou en français présenter l'autre personne. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pemandu wisata. Pemandu wisata. En français, guide touristique. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. En français, présenté, c'est Nina, le guide touristique ici. Ini Joko, teman saya. Ini Joko, teman saya. En français, c'est Joko, mon ami, teman saya. Teman saya. En français, mon ami. Pour présenter l'autre personne, vous pouvez simplement dire Joko, kenalkan, ini Nina. Joko, kenalkan, ini Nina. En français, Joko, présenté, c'est Nina. Nina, ini Joko. Nina, ini Joko. En français, Nina, c'est Joko. L'autre exemple, Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. En français, Joko, introduise, c'est Nina, le guide touristique ici. Nina, ini Joko, teman saya. Nina, ini Joko, teman saya. En français, Nina, c'est Joko, mon ami. Ensuite, la personne qui est présentée dit généralement son nom en se serrant la main. Un exemple. Kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. Kenalkan, ini Heru. Heru, ini Sinta. En français, introduisez, c'est Heru. Heru, c'est Sinta. Saya Heru. Saya Heru. En français, je suis Heru. Saya Sinta. Saya Sinta. En français, je suis Sinta. avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, écoutons encore une fois une conversation en indonésien.
Joko, kenalkan, ini Nina, pemandu wisata di sini. Nina, ini Joko, teman saya.
Halo, saya Joko.
Nina.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci à tous et à bientôt. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée N'arrête pas, chantée par Lingua. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, cette édition, nous allons vous présenter des informations sur la chanson malaise d'Asmidan Darwish intitulée Monter le canoë. Cette chanson, créée par Hussein Aidit, les paroles de cette chanson ont des rimes comme pantoum. La chanson elle-même raconte la joie de ramer en canoë. En accord avec les paroles qui expriment la joie de prendre le bateau, la musique était joyeuse avec un tempo rapide. Cette chanson est dans l'album spécial Malais Mélancolique. Asmidan Darwish est un des chanteurs de l'Ouest de Sumatra qui chante les chansons de rythme malais et arabe qui est souvent en duo avec son frère Zul Darwish. En outre, il a fait un duo avec un certain nombre d'autres chanteurs malais tels que avec Tia Ramon. Asmidan Darwish a commencé sa carrière de rejoindre le groupe Al-Barka et El Suraya en 1967. Le 19 septembre 1968, le premier disque est un enregistrement du groupe sous JNB Enterprise Jakarta avec quelques chansons. Bon, serviteur, voici donc la chanson d'Asmidan Darwish intitulée « Monter le canoë ». Bonne écoute, à demain.
Lagunya melayu sedih.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.